Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Une victoire du business sur la politique. Les multinationales sont-elles plus fortes que les États ? Des chiffres d'affaires qui dépassent le PIB de certains pays développés, un patron considéré comme l'homme le plus riche du monde, membre du gouvernement de Trump II. On peut en effet s'interroger sur le pouvoir inégalé des multinationales. Et trouver des réponses dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions de La Découverte, intitulé « Multinationales, une histoire du monde contemporain ». Un livre collectif rédigé par des chercheurs et des journalistes, co-dirigé par Olivier Petitjean et Yvan Duroy. Pour en parler, je reçois Olivier Petitjean, également cofondateur de l'Observatoire des multinationales, un média en ligne consacré aux pouvoirs économiques. Bonjour Olivier Petitjean.
Bonjour.
Donc là, c'est l'acmé avec un Elon Musk dans le gouvernement de Trump II du pouvoir de ces multinationales.
Effectivement, on peut, d'une certaine manière, c'est un aboutissement, l'aboutissement de l'histoire qu'on raconte dans ce livre, de plusieurs points de vue. D'abord, Elon Musk, c'est aussi l'homme le plus riche du monde, donc c'est l'aboutissement de cette accumulation de richesses qu'a permis cette forme multinationale et cette forme économique qui maintenant génère tant de richesses que cette richesse permet d'influer le pouvoir politique.
Ouais.
Et c'est un aboutissement au sens où il y a déjà eu dans l'histoire des ministres qui étaient en même temps chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise qui sont devenus ministres. Aux États-Unis, par exemple, dans les années 20, il y avait Andrew Mellon qui était à la fois l'un des hommes les plus riches du monde, une fortune dans l'acier et secrétaire au Trésor. Mais là, on a l'impression qu'Elon Musk, il prend même plus la peine de respecter les formes du politique parce qu'il n'a pas de position ministérielle officielle. Donc il intervient directement en tant qu'agent économique. Donc c'est un signe une sorte de suprématie, je dirais, de l'économique, de la logique, de la gestion des multinationales sur la logique traditionnelle du politique. Et là, c'est ce à quoi on assiste en direct.
Voilà. Et donc votre livre, qui fait plusieurs centaines de pages avec des collaborations diverses, etc., part du milieu du 19e siècle pour comprendre le pouvoir de ces multinationales et arrive jusqu'à aujourd'hui. Plus fort que les États, alors ?
Faut évidemment nuancer, mais d'abord, il faut dire que tous les États, on le voit bien aujourd'hui, même pour un État, pour un tournant développé comme l'Ukraine, tous les États ne pèsent pas autant.
Ouais.
Et là, on est vraiment dans un contexte où il y a de moins en moins d'États qui peuvent dicter leurs lois multinationales. Il n'y en a plus que quelques-uns, les États-Unis, la Chine, et encore pas totalement.
L'Europe, vous ne la mettez pas dedans ?
C'est une question. Donc, c'est la question à laquelle on va avoir une réponse prochainement, je pense.
Ouais.
Est-ce que l'Europe sera durablement vassalisée et deviendra juste une marge de manœuvre, une variable d'ajustement, comme le sont des États peu puissants aujourd'hui, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc., avec des marges de manœuvre très limitées, ou est-ce qu'ils seront en capacité politique d'imposer les règles du jeu aux multinationales ? Et ça, c'est toute la question qui est devant nous. Ouais.
Dans cette histoire-là, que vous racontez dans ce livre, vous avez le sentiment qu'elles ont elles-mêmes décidé des règles multinationales sur notre mode de vie ?
Je pense qu'il y a eu un processus où, effectivement, il y a eu des stratégies économiques de recherche de profit, de recherche d'expansion, de pouvoir. Et pendant longtemps, il y a quand même les États, notamment les États des pays industrialisés, les États-Unis, et aujourd'hui la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, on voit très bien, trouver un intérêt à laisser se développer ces multinationales parce que ça générait des revenus, ça générait aussi des carrières politiques. Parce que l'histoire des multinationales, des relations des multinationales et des États, c'est aussi une histoire de corruption, de conflits d'intérêts, de prises illégales d'intérêts. Donc il y avait une sorte de connivence, en tout cas avec les États les plus puissants, une partie bien sûr, ça n'allait pas sans contestation, sans mouvement citoyen de reprise en main, et on en parle beaucoup dans le livre. Mais donc pendant longtemps, je dirais, les grands États ont eu un intérêt à laisser les multinationales se développer. On l'a vu, donc l'histoire des multinationales, c'est aussi une histoire... C'est pas une histoire linéaire où les multinationales se sont développées sans problème.
Elles
sont devenues toujours de plus en plus grandes. Il y a eu des moments où elles ont été fortement contestées, même limitées dans leur expansion, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, après la crise des années 20, le New Deal, les politiques plus sociales, fordistes, disons, en Europe. Et ensuite, depuis les années 80, il y a de nouveau une levée de toutes ces barrières qui ont lancé une nouvelle vague d'expansion. Les multinationales sont devenues encore plus internationales. Donc c'est l'âge d'or de la mondialisation, encore plus grosse.
Ouais.
Et là, effectivement, on a à mon sens, on arrive à un point où on peut se poser la question, qui contrôle encore les multinationales ?
Ouais. Alors, d'après vous, c'est elles qui modèlent notre vie beaucoup plus que les États ? Parce qu'elles sont
aujourd'hui,
partout. Franchement, nos habits, nos téléphones, elles sont partout.
Tout à fait. Donc, l'histoire des multinationales, c'est aussi la manière dont elles ont pénétré des pans de plus en plus importants de notre vie. Donc, au début, les multinationales, c'était le commerce lointain, oui. Le charbon, l'acier. Puis, tout à coup, ça a été les médicaments, l'automobile, l'agroalimentaire, la grande distribution, le commerce. Et aujourd'hui, le numérique qui pénètre encore des champs qui étaient jusqu'ici, qui échappaient au marché, on peut dire. Et donc, effectivement, on est devenu de plus en plus, dans notre vie quotidienne, on est devenu de plus en plus dépendant des multinationales. Et on ne pourrait pas imaginer, par exemple, imaginer qu'un État nationalise tout et que tout à coup, pour tout ce qu'on fait dans les moindres coins de notre vie. Donc, de fait, oui, c'est un pouvoir, elles modèlent notre vie et les États n'ont plus le pouvoir de contrôler. Ils peuvent limiter les dégâts et ce n'est pas leur rôle non plus aux États de tout contrôler, évidemment. Il pourrait limiter les dégâts, faire en sorte d'éviter les phénomènes les plus nuisibles. Donc c'est tout un débat. Est-ce qu'ils le font pas assez ? Moi, je pense que oui, ils le font pas forcément toujours assez parce que les multinationales sont très influentes. Mais de fait, dans notre vie, si on regarde notre vie quotidienne, c'est elles qui influencent la marge des choses avec les conséquences plus globales en termes de climat, par exemple, de commerce, de manque de résilience auquel on a été confronté pendant la pandémie, etc. Et les États ne font que suivre.
Vous le dites très bien dans ce livre. Qui est un collectif avec des journalistes et des chercheurs. Est-ce que c'est un objet vraiment d'étude, à la fois pour les chercheurs et pour les journalistes, ou est-ce qu'on n'est pas passé à côté ?
Ce qui définit la multinationale, c'est d'être un objet un peu difficile à saisir, parce que sa définition, c'est qu'elle échappe aux frontières nationales, donc elle peut toujours... Et c'est à la fois un acteur économique, un acteur politique, un acteur juridique, c'est très important. Ce qui fonde historiquement le pouvoir des multinationales, c'est d'une part, évidemment, la mondialisation du commerce, de la communication, et c'est pour ça qu'on commence notre livre vers 1850, parce que c'est le premier grand pas en avant en termes de communication et de transport. Mais c'est aussi cette forme juridique autonome qui est inventée pareil vers 1850 de la société anonyme, et en fait c'est la première création juridique d'un acteur autonome par rapport aux États depuis quasiment la fondation de l'Église chrétienne au tout début du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment une innovation historique radicale dont on n'a pas
mesuré l'ensemble,
parce qu'avant il y avait des entreprises, mais l'État autorisait chaque entreprise, donc elle restait sous la tutelle des États. Et puis depuis c'est une forme qu'ils ont inventée pour permettre le développement industriel, mais qui maintenant est devenu un acteur autonome et qui opère au même niveau, voire encore plus haut que...
Olivier Petitjean, est-ce que ça existe, une entreprise apatride ?
Alors, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de réponse noire ou blanche, parce qu'évidemment, les entreprises, elles ont des ancrages de différents types. Elles ont des ancrages... soit parce qu'elles ont la plupart pour prendre l'exemple de la France, puisque c'est depuis la France qu'on parle aujourd'hui, elles ont un ancrage avec des employés en France, mais on voit que les grands groupes français ont de moins en moins d'employés en France. Des fois, elles ont un ancrage parce qu'elles ont des actionnaires principaux ou l'État français qui est leur principal actionnaire, mais on sait que les milliardaires ont aussi leur logique propre, n'ont pas une fidélité nécessairement absolue vis-à-vis de leur pays d'origine. On a vu que Bernard Arnault, par exemple, à un moment parlait de s'exiler fiscalement en Belgique. Et ensuite, il y a la question des dirigeants. Et là, effectivement, donc il y a plusieurs manières. Donc, et quand on regarde les grands groupes français, il y en a qui, effectivement, on voit qu'il y a une fidélité plus grande pour beaucoup de raisons historiques et des liens avec l'État. Il y en a d'autres, bon, je les citerai pas parce qu'on n'est pas là pour dénoncer l'entreprise en particulier, mais on voit qu'elle pourrait très bien partir du jour au lendemain et aller s'installer dans un autre pays, c'est sûr.
Alors, comment on explique, Olivier Petitjean, le paradoxe du fait qu'elles ont de plus en plus de pouvoir, et elles vont en avoir de plus en plus parce que aux États-Unis on déréglemente, à Bruxelles aussi on veut déréglementer. Comment on explique ce paradoxe avec le fait que l'État semble en même temps reprendre la main au nom du protectionnisme, au nom de la sécurité nationale ?
Donc c'est clair qu'en ce moment, on est dans une période de redéfinition des relations entre les États et les multinationales, par opposition aux années 90-2000, où c'était la foi naïve dans le libre-échange qui allait permettre à tout le monde de prospérer aujourd'hui, et que les États n'avaient plus pour rôle que de laisser les multinationales se développer. Aujourd'hui, parce qu'on a connu des chocs multiples, la pandémie, le retour de la guerre, enfin le retour en Europe en tout cas de la guerre, effectivement on est en phase de redéfinition, et à mon sens on ne sait pas très bien où ça va atterrir, parce qu'effectivement on voit beaucoup, notamment en France et en Europe, les pouvoirs publics dire, voilà, parler de souveraineté, de résilience, mais sans remettre en cause le fonctionnement intrinsèque de ces machines que sont les multinationales. Donc souvent en France, à mon sens, quand on parle de souveraineté, c'est pour dire oui, on va donner un peu plus d'aide à nos des grandes entreprises, sans se donner les conditions où, dans beaucoup de cas, de faire en sorte que voilà, elles n'iront pas partir. Par exemple, on va offrir des aides publiques pour s'implanter, implanter une usine en France, sans aucune garantie que si un autre pays à côté offre plus, eh ben l'entreprise, elle va pas aller ailleurs. Et donc, pour moi, c'est cette notion de soutien aux champions, ça répond qu'à une partie du problème, parce que ça répond pas à la structure même de l'économie. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est un peu le diagnostic qu'on fait dans la conclusion, il faut aussi réfléchir à notre dépendance envers les multinationales, le fait que, en tant que société, en tant qu'État, réduire nos dépendances, et là tout le monde le dit aujourd'hui vis-à-vis des GAFAM, tout le monde dit oui, il faut réduire notre dépendance vis-à-vis des GAFAM, mais ça vaut pour d'autres secteurs aussi. Quoi.
Dernière question, réponse courte, est-ce qu'une les multinationales empêchent la guerre entre les États ?
Non, l'expérience prouve que non, l'expérience prouve que effectivement.
Oui, mais là, on est beaucoup plus intégrés. Hein.
Voilà. Ouais. Les multinationales, ce serait potentiellement abusé dans beaucoup de cas de dire qu'elles provoquent la guerre. Mais bon, on sait qu'elles savent s'adapter aux situations et qu'elles savent flairer les opportunités de faire des profits. Ouais. On l'a vu pendant toutes les guerres. Les guerres, c'est souvent un moment d'expansion, d'innovation technologique qui permettent aux multinationales de devenir encore plus grosses. Et donc, on peut pas compter sur elles pour
nous sauver. Merci beaucoup, Olivier Petitjean, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.